Hilde, mars 1951. Une déflagration brutale. La vaisselle tinte. Le sol tremble. Les murs vibrent. Du côté de la porte tambour, du crépi tombe du plafond. Après 3 ou 4 secondes, le vacarme s'apaise. Hilde s'est figée à côté du comptoir à pâtisserie, le plateau pour la table 7 dans les mains.
Les Russes arrivent! Des obus anti-chars! Il faut descendre à la cave!
Hurle une cliente hystérique. Un enfant fond en larmes. Murmure, exclamation étonnée. Regard en direction du plafond où les suspensions oscillent encore. Un rire s'élève.
Un tremblement de terre, ça alors!
S'exclame Hans Reblinger. Quoique soulagée, Hilde sent son cœur s'emballer, le contre-coup de l'émotion. Quelques clients se lèvent et sortent dans la rue. Couché dans sa corbeille, le chien ne s'est même pas réveillé. Derrière le comptoir, Finchen, la serveuse, a sorti le plat en porcelaine contenant le gâteau au chocolat fourré à la crème. Elle saisit le couteau plongé dans le récipient d'eau, mais à peine a-t-elle commencé à couper des parts qu'elle suspend son geste.
« Oh là là! Vous avez vu Madame Perrier ?»
Mais le service n'attend pas. Hilde commence par apporter leur petit déjeuner aux 2 jeunes comédiennes qui ont une répétition au théâtre dans la matinée. 2 petits pains frais, du beurre, du miel et de la confiture, 1 tasse de café, le tout pour 90 pfennis. Ils en sont de leur poche, mais au Café Engel, on tient ce que les artistes, souvent peu payés, surtout en début de carrière, se sentent chez eux. Cela a toujours été la philosophie de Heinz, le père de Hilde.
Je vous souhaite bon appétit malgré tout.
Merci. Vous avez vu ça?
Demande l'actrice Karine Langesser en pointant le doigt vers le comptoir. Hilde se retourne et reste ébahie. La vitrine est parcourue par un motif ressemblant à une toile d'araignée tracée avec une pointe en acier.
Non!
Laisse-t-elle échapper tout bas. Finchen repose le gâteau avec un regard soucieux.
C'est incroyable,
dit-elle tandis que Hilde promène ses doigts sur la vitrine.
Elle a traversé les bombardements sans une égratignure et une petite secousse de rien du tout suffit à la fêler. Quand Madame Corr verra ça.
Les clients sortis voir ce qui se passait regagnent la salle en parlant tous en même temps. Un mur en ruine s'est effondré dans le quartier des Sources, manquant de peu une femme et ses 2 jeunes enfants. Un vélo chargé de 2 sacs à provisions s'est renversé et plusieurs tuiles se sont écrasées sur le trottoir devant le café Koenig. Elze, qui sort à cet instant de la cuisine sans avoir pris le temps d'enlever son tablier enfariné, prie aussitôt Hilde de sortir vérifier si le toit n'a pas souffert. Dehors, le soleil des premiers beaux jours brille comme si de rien n'était. Assis sur les bancs du parc thermal, des gens en manteaux et chapeaux profitent de cet avant-goût de printemps. Des crocus blancs et jaunes ornent les parterres et les premières tulipes pointent leurs petites têtes vert pâle. Devant le café Koenig, 2 serveurs installent des tables et des chaises pliantes tandis qu'un garçon ramasse les débris de tuiles et les jette dans un seau. Hilde leur fait un signe de tête. Ils ont peu de chance d'avoir des clients en terrasse, il fait encore trop frais. Mais peut-être se trompe-t-elle. Le Koenig, qui s'est installé en face il y a 2 ans dans un bâtiment provisoire, est devenu leur bête noire. Ce n'est pas la concurrence en soi qui les dérange. Elle constitue un stimulant pour les affaires. Wiesbaden compte une foule de cafés, et c'est une chance. Après les années difficiles de l'après-guerre, la situation s'est enfin améliorée. Mais Egon Meyer-Schulte, le propriétaire, cherche à s'approprier leurs clients. Et pour cela, tous les moyens lui sont bons. Pendant qu'elle inspecte les murs fraîchement crépis de la façade et découvre une fissure, Hilde s'entend soudain ailer.
Hé, Hilde, ma petite colombe, est-ce que ça va? Il y a eu un grand boom.
Levant les yeux, elle aperçoit son époux à la fenêtre de l'appartement de Sophia Kunzel. Jean-Jacques a coiffé ses boucles noires d'un chapeau pointu en papier journal.
Adi, dont la tête grise a surgi à côté de lui, a les cheveux couverts d'un mouchoir à carreaux bleus et blancs noués aux 4 coins.
Ils sont en train de rénover le logement de la Künzel pendant que celle-ci donne ses leçons de piano au conservatoire.
« C'était un tremblement de terre !»
lance Hilde.
« Tout va bien, là-haut ?»«
Si on veut !» répond Adi. « Le seau de peinture blanche !»«
Aïe ! Il s'est renversé ?»
Jean-Jacques éclate de rire. C'est un homme qui fait tout avec passion. Aimer, rire, se disputer, se mettre en colère, se réconcilier.
« Mais non !» réplique-t-il. « Je l'ai rattrapé à temps !»«
Le seau !»
précise Adi avec un sourire moqueur.
« Pas la peinture !»
Hilde regagne promptement la salle avec un soupir. Quelques clients veulent payer. Finchen débarrasse les tables et passe une petite brosse sur les nappes blanches afin d'en ôter les miettes. Heinz, qui était monté voir Auguste, est redescendu. Le frère aîné de Hilde, que l'on croyait à tort prisonnier des Anglais, a passé plusieurs années en captivité en Union soviétique. Il est rentré il y a un peu moins d'un an, dans un état pitoyable, émacié, le teint gris. C'est tout juste s'ils l'ont reconnu. Grâce aux bons soins d'Elze, il s'est remis et a repris ses études de droit à Francfort. Pour l'heure, il se prépare assidûment à un examen important, mu par le désir d'être indépendant le plus vite possible pour ne plus être à la charge de sa famille. Heinz se montre très affecté par les dégâts sur la vitrine. Il ne cesse de secouer la tête et de passer la main sur le verre fêlé en répétant qu'il sera difficile de trouver un artisan capable de la remplacer.
« On va enfin pouvoir acheter une nouvelle vitrine, papa !»
lâche Hilde.
« Réfrigérée et équipée d'un éclairage électrique, comme en Amérique !»
Il répond par un geste de refus catégorique. Elze n'est pas plus enthousiaste. Il y a un point sur lequel ses parents sont malheureusement toujours d'accord. Rien ne doit changer. Pourtant, ils sont bien forcés de reconnaître qu'ils perdent des clients. Le café Koenig, par exemple, est vaste et clair, avec de grandes baies vitrées et des jardinières de plantes exotiques. Voilà ce qui plaît à l'heure actuelle.
« Occupe-toi donc du déjeuner !»
lâche Heinz pour clore le débat.
« Aujourd'hui, c'est maman qui s'en charge. »
L'époque où Elze faisait tous les soirs à dîner pour les locataires de l'immeuble appartient désormais au passé. Sophia Künzel et Julia Wimhüner subviennent à leurs propres besoins. Hubert Lindner, qui a trouvé une chambre, ne fait plus que de rares apparitions. Louisa vit avec son époux Fritz Bogner dans un petit appartement du quartier de l'église de la Montagne et leur donne de temps en temps un coup de main. L'année précédente, Edith von Hack et sa domestique, Grete Kruse, ont trouvé un modeste logement dans un immeuble neuf et, depuis, on ne les a pas revus. Ce dont personne ne se plaint chez les corps. Quant à Wilhelm, le second frère de Hilde, il est rentré dès 1946 des États-Unis, où il était prisonnier des Américains. Depuis, il a achevé sa formation à l'école d'art dramatique de Francfort. Après avoir longuement hésité, il a accepté, pour faire plaisir à ses parents, un engagement au théâtre de Wiesbaden pour les rôles de jeune premier. Il semble avoir du succès. Auprès du public féminin, en tout cas, car on voit fréquemment débarquer des dames, jeunes et moins jeunes, en quête d'un autographe. On déjeune ponctuellement à midi et demi, tantôt chez Hilde et Jean-Jacques, qui se sont installés dans l'ancien appartement d'Auguste, tantôt chez les parents. La famille s'est agrandie, car Hilde a donné naissance à des jumeaux à la fin de l'année 1946. Frank et Andy auront bientôt 5 ans, et l'année prochaine, à Pâques, ils feront leur entrée à l'école. Elze jette un regard à la vieille horloge de la salle. Ouf ! 11h moins le quart, elle a amplement le temps de préparer le déjeuner.
« Tu te trompes, chérie, »
rectifie Heinz en consultant sa montre. « Il est 11h30. »«
Quoi ?»
La bonne vieille horloge s'est arrêtée. Son balancier s'est immobilisé sous l'effet de la secousse et, à présent, l'horloge indique l'heure à laquelle la terre a tremblé quelques secondes ce jour-là.
Pourvu que ce ne soit pas un mauvais présage,
lâche Elze qui a conservé un fond de superstition.
Je crains que si, réplique ironiquement Hilde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le déjeuner ne sera pas prêt à l'heure.
C'est ce que tu crois,
rétorque Elze en retirant son tablier et en montant à l'appartement.